Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Pierre de Villeneuve.
Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à Catherine, Michel Cotta et Charles Villeneuve.
Bonjour.
Et bonjour à notre cher Gérard Carrérou que nous espérons de retour parmi nous la semaine prochaine. On lui souhaite bon rétablissement
oui,
au programme.
Bonjour Gérard.
Voilà.
On pense à toi.
Au programme de votre émission de ce samedi. Oyez, oyez, bonnes gens, venez assister au spectacle cet après-midi au Palais Bourbon quand l'Assemblée nationale se transforme en arène des Jeux du Cirque. Premier sujet de discussion, corrida, inscription de l'IVG dans la Constitution, retour des soignants non vaccinés. Les débats de société se sont succédés à la tribune dans une atmosphère délétère. D'autres critiquent déjà le retour probable d'Adrien Quatennens sur les bancs LFI. Le gouvernement, pendant ce temps, remet le 49-3 sur le tapis. Oui, mais les Français dans tout cela, est-ce là le tableau de la représentation nationale? C'est notre premier sujet. Rien ne va plus entre la France et l'Allemagne. Paris reproche à son premier partenaire européen de faire cavalier seul. Elisabeth Borne était à Berlin hier pour tenter de déminer. Oui, mais à quoi bon? Que peut-elle faire face aux États-Unis qui profitent bien de cette situation? Le couple franco-allemand a-t-il définitivement vécu? Nous poserons la question. C'est l'hiver de tous les dangers en Ukraine, on s'y attendait, mais c'est donc bien cela. La Russie passe à la stratégie d'usure pour écraser la résistance. Température en dessous de zéro, électricité coupée, pas de chauffage. Et puis à Kherson, c'est le retour de la terreur avec un bombardement massif. Nous en parlerons. Enfin, plus de 12 millions de téléspectateurs pour l'entrée en matière réussie des Bleus face à l'Australie. C'est presque un téléspectateur sur deux qui a regardé le match de Coupe du Monde mardi soir. Dans une actualité toujours plus clivante pour la population, le foot reste-t-il fédérateur? Réponse en fin d'émission. Vous avez le programme? Le débat des grands voix, c'est parti. Le programme de l'Assemblée nationale était dense cette semaine. La loi Corrida, reportée car trop d'amendements et surtout parce que le député en question aurait voulu que tout le monde le suive. L'IVG dans la Constitution, en réaction notamment à la situation aux États-Unis, carton plein, 337 pour, 32 contre. Oui, mais alors pourquoi si tout le monde est d'accord? La réintégration des soignants non vaccinés, le député de Guadeloupe, Olivier Servat, père Sénair, il dit « tu vas la fermer » à Sylvain Bayard. Pendant ce temps, une femme se fait par exemple violer aux urgences, la guerre en Ukraine continue. Les Français voient leurs factures augmenter. Est-ce que les Français sont bien représentés dans cette Assemblée nationale, Michel Cotta?
Alors oui, vaste question. Parce qu'effectivement, ce que vous racontez est vrai. Moi, ça m'a beaucoup impressionné l'autre jour. Bon, union absolument totale sur l'IVG dans la Constitution. Donc on se dit à ce moment-là quand même... Cette Assemblée, il y a des moments où elle peut trouver une cohésion. Après tout, elle peut tenir. Et puis, 10 minutes plus tard, c'est absolument un désordre considérable. Les gens s'injurient et sur des thèmes quand même secondaires qu'on en arrive à se bagarrer à ce moment-là sur la corrida. En France, on sait bien que c'est un problème très sensible.
Et surtout sur le retour des soignants non vaccinés.
Et surtout, alors, la corrida, et alors, c'est pas venu au Parlement.
Oui, justement. Oui. Alors, et qu'on change ça au dernier moment. Non, mais on voit bien comment tout ça, à force de jeu parlementaire, on voit bien comment tout ça explose. C'est-à-dire, c'est un jeu parlementaire, effectivement, au dernier moment, de retirer la proposition qui est en cours, qui est donc celle sur les toreros, qui sont tellement aimés, et de remplacer ça par l'intégration du personnel non vacciné. On sait aussi que sur ce point, tout de même, les gens se comportent d'une drôle de façon, parce qu'on a naturellement, généralement, l'attaque sur les vaccins vient de l'extrême droite. Là, elle est venue de l'extrême gauche. On a vu l'embarras des Républicains qui se sont divisés, et notamment Philippe Juvin, qui est professeur des urgences ici, qui avait déposé, qui n'a pas pu apparaître.
Ici, d'ailleurs. C'est Pompidou, parce qu'on est à côté.
Ici, voilà, c'est Pompidou, oui.
Pour que les gens comprennent. Donc, c'est l'hôpital.
On voit bien comment, pardon, je suis aussi embrouillé que l'Assemblée nationale.
Pas tout à fait, fort heureusement pour nous. Catherine Ney.
On voit bien, non, mais je veux dire, pour finir, on se dit tout le temps, est-ce que ça va durer? Est-ce que ça peut durer? C'est ça le problème. De temps en temps, on se dit, oui, ça va, ça passe, après tout, 49-3. Et puis, à d'autres moments, on se dit, ça ne peut pas durer, ça ne durera pas comme ça, et la démocratie gagnerait peut-être.
Catherine.
Moi, je crois que ce qui se passe, tohu-bohu, est le reflet de la société actuelle. Et tous ces gens qui ont été élus, tous ces nouveaux, ils ont été élus par des gens qui sont violents, qui représentent leurs électeurs. Mais surtout, ce qui est nouveau, c'est que l'Assemblée, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, mais ça avait commencé un peu avant, est totalement renouvelée. Mmh. Ce sont des nouveaux, ce sont des bisus.
Des bisus.
Qui sont arrivés au Parlement, d'ailleurs dans le groupe RDL, ils ne se connaissaient même pas entre eux. Donc si vous voulez, il faut apprendre le métier. Il y a une espèce de...
Et donc, c'est On ne s'improvise pas député.
On ne s'improvise pas député. Et puis, il n'y a plus les tuteurs qu'il y avait avant, qui étaient les députés-maires, qui étaient des vieux briscards. On disait, ah, mais il est temps de s'en débarrasser. Toujours les vieux, il faut changer. On a tellement changé que maintenant, ils n'ont plus aucun point de repère. Mathilde Panot, elle est... Voilà, je prends un exemple.
Elle est... Ben, je veux dire... Chez vous, parce que Béglé s'est lâché hier sur Caron. Donc
non, mais Mathilde...
Vous sur...
Oui, non, mais elle fait ce qu'elle peut. Mais alors, je veux dire, son groupe, il est totalement hétérogène avec des gens qui ont des personnalités assez violentes et qui... Bon, mais regardez Olivier Marleix. Ben, les députés, ils sont là ou ils ne sont pas là. Ils font ce qu'ils veulent. Et je ne parle pas des autres.
Vous voyez, c'est pas tenu.
Donc, ça n'est pas tenu. Quand on parle de l'ensauvagement de la société... C'est pas qu'on revient à un retour à l'état sauvage, c'est que c'est l'absence de soumission à l'autorité quelle qu'elle soit. Donc les députés, ils sont à l'image de leurs électeurs, si vous voulez. Et puis autre chose, voyez par exemple Madame Garrido. Madame Garrido invite les Gilets jaunes.
À l'Assemblée.
Ceux qui avaient été des leaders des Gilets jaunes. Alors, mais moi je crois que moi, ça m'a choquée dans un premier temps, et je me dis, dans le fond, elle les invite pour leur montrer que leur porte-parole, maintenant, ce sont eux. Et donc, ils n'ont plus besoin d'aller sur les ronds-points pour se faire entendre. Ben, d'une certaine manière, c'est politique. Elle veut capter cet électorat-là. Bon, mais je veux dire, c'est intéressant aussi, parce que peut-être, parce qu'il y a ce tohu-bohu à l'Assemblée, vous voyez, ça empêchera peut-être les Gilets jaunes d'aller sur les ronds-points. Pourquoi ils sont venus à Paris
Catherine, les Gilets... Vous êtes en train de dire Raquel Garrido a raison d'inviter les Gilets jaunes à l'Assemblée.
Ben, parce qu'elle veut capter leur électorat. Et si elle les capte, et si ces gens des Gilets jaunes se sentent représentés par eux, vous voyez, c'est un gain politique, mais c'est un acte politique. Mais l'intérêt pour la nation, c'est que s'ils ne vont plus sur les ronds-points,
ils sont à l'Assemblée nationale.
Eh ben, ils sont à l'Assemblée nationale.
Ils sont pas les Bourbons.
Voilà.
Non, mais moi, Charles Villeneuve. Mais je trouve qu'elle a... que Catherine a assez bien décrit ce qui est en train de se passer. Par deux
merci.
Fois.
Merci. Assez bien. Mention assez bien, merci.
C'est l'école
non
des
mais,
fans.
Non, mais si tu veux, je peux te contredire aussi pas mal.
Oui.
Sur pas mal de points.
Mais d'accord.
Je vais essayer de le faire.
Allez. On est en bonne... Hein.
Non, de l'humour.
Non, mais quand tu dis du bien d'elle,
oui,
de
toute façon, mais bon,
ça l'embête. Et quand tu dis du mal d'elle, allez, ça l'horripile.
Tout va bien.
Bon, alors,
va bien.
On va
ça va
résumer.
De l'humour,
ça va bien
Charles,
passer.
De l'humour.
On va résumer sans humour, puisqu'il y a quelqu'un qui en possède. On va résumer un peu ce qu'elle vient de dire. C'est-à-dire que c'est une assemblée qui, par deux fois en 2017 et en 2022, a été totalement renouvelée. Et que la plupart de ceux qui sont arrivés, notamment les derniers en 2022, dans deux groupes, ont renforcé deux groupes, la France Insoumise qui n'existait quasiment pas, et le Rassemblement National aussi, une palanquée de nouveaux députés, près de 89 et plus de 89 dans le cadre de la NUPES à gauche, à l'extrême gauche, qui ne connaissent pas les codes, évidemment, puisque beaucoup de ténors du Parti Socialiste ou des Républicains ont quitté l'Assemblée nationale. Mais en même temps, je dirais que c'est ça la politique. Justement, on a assisté enfin à une Assemblée nationale qui n'est pas une simple chambre d'enregistrement de l'exécutif. Et au fond, c'est heureusement que cette Assemblée se soit renouvelée. Elle a retrouvé cette capacité de ne plus être cette chambre d'enregistrement. Et Jean-Luc Mélenchon te dirait, ben c'est ça la politique.
Ouais, on l'avait un peu prévu d'ailleurs fin juin, après les élections législatives, on savait qu'ils allaient se mettre dessus. Quoi. On savait que ça n'allait pas être aussi calme que dans le premier
c'est
mandat.
Ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement les codes qui manquent à l'Assemblée nationale. Vous avez tout à fait raison de dire, c'est vrai.
D'ailleurs, à propos de codes, on a rappelé, sur les tenues vestimentaires, il y a eu à nouveau un règlement, parce qu'il y a quand même des gens qui venaient en short.
Je veux dire, c'est pas seulement les codes, c'est quand même la politique qui domine. Et c'est la politique, et c'est... on voit bien, un, c'est l'existence du Rassemblement national qui veut d'abord, et qui dans une première période a été sage, uni derrière Marine Le Pen, voulant justement dédiaboliser l'image du mouvement national comme elle s'est dédiabolisée elle-même. Mais on voit très bien qu'il y a le jeu des insoumis qui est vraiment de mettre un c'est pas une question de code, ça. C'est volontairement qu'ils mettent un désordre terrible. Il y a les verts qui jouent un rôle considérable oui. là-dedans.
Ça alors après, il y a ça. Vert et vert.
Hein, et il y a, oui, y a ouais. vert et vert, d'accord. Mais, et puis, il y a les républicains. Et le mystère républicain demeure. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? On le saura sans doute. On sera plus libre de le savoir à partir du moment où il y aura un président. Mmh. Mais qu'est-ce qu'ils veulent quand quelque chose, quand à un vote précis sur les vaccins, on voit qu'ils sont divisés et qu'ils se divisent politiquement contre le gouvernement. Tout ça, c'est pas du tout des codes. C'est vraiment une volonté politique d'influer effectivement sur l'exécutif, mais d'influer brutalement et n'importe comment
parce
sur l'exécutif.
Parce qu'il y a de nouveaux facteurs, mais je laisse Pierre lancer la pause,
j'arrête
la pub. Et on reviendra après. Il y a deux facteurs nouveaux aussi.
Alors, les deux facteurs, c'est juste après ça.
Les grandes voix d'Europe 1. 10h, 11h. Pierre de Villeneuve.
Avec Michel Cotta, Catherine Ney et Charles Villeneuve, à qui je redonne la parole, puisque effectivement, on était au milieu du guet, comme on dit.
Non, il y a un facteur qui a changé beaucoup de choses, c'est faute de majorité absolue. La République En Marche, ou Renaissance maintenant, ne peut plus imposer le calendrier politique à toute l'Assemblée nationale, comme c'était le cas de 2017 à 2022. Et puis la deuxième chose, c'est que le président de la République, la loi, en tout cas, la Constitution, l'empêche d'être réélu. Et à partir de là, tout le monde s'agite, et notamment les principaux leaders de chacun des groupes. Bien évidemment, dans la perspective d'être bien placé au moment de la présidentielle de 2027.
Alors, pendant ce temps, le gouvernement ressort l'arme du 49-3 pour faire passer le budget de la Sécu, hein, ce après le rejet d'une nouvelle motion de censure de la France insoumise. Ce sera le sixième 49-3 de cette session. Mais oui, mais Mme Borne dit nous ne pouvons pas recommencer éternellement les mêmes discussions, hein, Catherine Ney.
Ben oui, mais ça, c'est la faute à pas de majorité. Qu'est-ce que vous voulez? Au départ, le président, on a cru qu'avec le quinquennat, on était préservé pour toujours d'une absence de majorité, que c'était automatique. Et bien, la majorité, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Et on s'est aperçu que le président, n'ayant pas fait campagne pour être réélu, il a été réélu, n'ayant pas fait campagne pour demander aux Français une majorité, eh bien les Français ont été peut-être agacés et se sont dit, ben, ils ont réinventé la proportionnelle avec le vote à deux tours. C'est ça, parce que c'était une réponse, dans le fond, à cette absence de dialogue avec les Français. Donc maintenant, on en est là que Mme Borne utilise le 49-3, mais elle peut... Si elle l'utilise 15 fois, elle n'a pas d'autres moyens. Bon, et les autres n'ont pas d'autres moyens que de lancer les motions de censure qui n'aboutissent pas. En réalité, la motion de censure, quand le président dit qu'ils y aillent, j'ai pas peur de la dissolution. Ceux qui tiennent le pistolet, ce sont les Républicains. Parce que tant que ça sera la NUPES ou le Rassemblement national qui déposera une motion de censure, pour avoir une majorité, il faut les Républicains. Les Républicains ne voteront pas. Si ce sont eux qui déposent une motion de censure, les autres voteront.
C'est la variable d'ajustement.
Voilà.
Oui, mais c'est vrai que tout Michel le problème Cotta. De cette Assemblée tourne autour des Républicains. C'est les Républicains qui peuvent, en réalité, ils pourraient faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils ont, avec la majorité relative, ils ont une majorité totale. Au fond, ils pourraient imposer ce qu'ils veulent à la majorité. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas quand même la politique, le sens politique de l'action des Républicains. Est-ce que sur certains points, quand on dit, quand on entend Bruno Retailleau dire « Ah non, la retraite, je la voterai, mais la loi sur la retraite, je la voterai, mais à certaines conditions », on voit bien que quand même, sur certains points, ils devraient naturellement être attirés par la majorité relative telle qu'elle est, mais que leur sens politique fait qu'ils se disent « Ah, nous disparaîtrons si nous sommes absorbés par Emmanuel Macron. » Mais ils disparaîtront peut-être aussi s'ils se divisent, et c'est une partie d'entre eux, par exemple.
Ils le sont.
Si une partie d'entre eux vote pour le projet de retraite du gouvernement et que l'autre vote contre. Donc, c'est eux, le noyau, effectivement, c'est autour d'eux que les Républicains, que peut se faire ou se défaire l'Assemblée nationale, mais ils sont aussi un problème en eux-mêmes.
Autre fait marquant de cette semaine, c'est le retour potentiel d'Adrien Quatennens sur les bancs de LFI. Arrêt maladie de plusieurs mois, consécutif aux accusations de violence envers son épouse. Le débat est relancé puisque cette épouse en question, Céline Quatennens, a dénoncé mercredi à l'AFP des violences physiques et morales depuis plusieurs années. c'est encore un déballage médiatique qui justement remet en cause l'exemplarité que doit se tenir d'un député de la République.
Surtout quand, surtout quand on est dans un groupe qui passe son temps à donner des leçons à tout le monde,
ben oui.
Et notamment en cette matière.
Non, mais ce qui est intéressant quand même, Michel, là, dans ce Charles nouvel Villeneuve. Épisode, c'est que c'était un boulet pour la France insoumise, oui. C'est devenu un poison pour la NUPES.
Absolument, mais oui, mais
Katniss.
Mais moi, ça, alors que c'était le, on se disait.
Mais est-ce qu'il doit démissionner non, parce que c'est Marine Le Pen, Sandrine Rousseau. Enfin,
on se disait de Katniss, ce qui est formidable, c'est qu'on se disait de Katniss, vraiment, lui, c'est le numéro 2, ça sera le futur numéro 1.
Un
Mélenchon, il a su faire, il a su préparer la suite, et puis c'est sur lui que ça tombe. Oui, moi, je trouve qu'il devrait démissionner. Se représenter dans ses électeurs
se
et puis voir et se relégitimer. Je ne comprends pas qu'on fasse autrement et je ne comprends surtout pas que la France insoumise dise oui, mais on va juger ça tout seul.
Non, mais parce qu'ils avaient préparé son retour. Parce que puisqu'il a dans quelques jours le plaidé coupable, c'est-à-dire cette nouvelle forme qui fait que tu as affaire à un procureur et qu'un juge décide de toute façon dès lors que tu admets une partie de ta culpabilité. Tu as une peine automatique décidée évidemment par un magistrat qui t'est administré. Mais là, là, ça va beaucoup plus loin. C'est en cela que c'est un nouveau tournant. Que le témoignage de son épouse, qui dit qu'en réalité, ça faisait des années que ça durait, que aussi bien les colères que parfois les violences physiques aussi, a aggravé le problème. Ce tournant fait qu'aujourd'hui, il n'est plus question qu'il revienne pour reprendre sa place dans l'Assemblée nationale. Alors, en tout cas, c'est le cas du leader du Parti socialiste, Olivier Faure, qui lui dit que c'est impossible qu'il revienne dans l'État, comme ça, et réoccupe sa place de député de la France insoumise. C'est la même chose aussi de plusieurs personnalités des Verts, comme Sandrine Rousseau, qui est évidemment péremptoire sur ce plan-là. Et dès lors, c'est en effet peut-être à nouveau une représentation devant le peuple pour se relégitimer. Bon, je ne sais pas ce qu'ils décideront, mais c'est devenu un véritable poison dont plus personne n'arrive à se débarrasser.
Une nouvelle pause dans les grandes voies et dans un instant, on parle du couple franco-allemand. À tout de suite.
Europe 1, Pierre de Villeneuve.
Avec les grandes voix en ce samedi, Charles Villeneuve, Michel Cotta et Catherine Ney qui voulait d'ailleurs ajouter un petit mot sur...
Non, mais quand on se souvient de Katniss qui faisait la morale en relevant la tête, là on se disait c'est vrai qu'il a l'air, c'est le successeur possible de Mélenchon, puis il avait un air comme ça, propre sur lui, la brosse toujours impeccable, il avait une espèce de tenue, on se disait voilà un homme rigoureux qui a de la rigueur, y compris dans... Mais voilà.
En tout cas, dans le métier, on peut vous dire que Katniss, quand il venait en interview, il avait bossé ses dossiers,
ben oui,
il était incollable sur les chiffres.
Ceux qui font la morale, ça j'ai remarqué dans plein temps, sont souvent ceux qui ont le plus à se reprocher. Voilà.
À propos d'exemplarité, on a la Cour des comptes qui annonce ouvrir une enquête sur les comptes de campagne d'Emmanuel Macron, le Parquet national financier qui enquête sur tenue non conforme des comptes de campagne, minoration d'éléments comptables. On cite à nouveau le cabinet McKinsey. On a vu le président assez serein, d'ailleurs, dans ses déclarations hier.
Je rappelle que l'affaire ne porte pas spécifiquement sur les comptes de campagne d'Emmanuel Macron, parce que ces comptes de campagne ont été approuvés et validés. Ils sont aujourd'hui réouverts. Pas les comptes proprement dits, mais simplement la dizaine de membres du cabinet McKinsey qui ont bénévolement participé à la campagne présidentielle du président. C'est ça dont il s'agit. C'est est-ce que le cabinet américain, après l'élection du président, n'a pas profité de cette participation bénévole de 10 de ses membres en se voyant attribuer un certain nombre de contrats dans différents ministères. C'est là-dessus que l'enquête va porter. Mais il y a quand même il y a un caractère qui est spécifique au Parquet national financier. C'est le caractère judiciaire de l'instance qui n'est pas synonyme de neutralité politique. Parce que chaque fois, il suffit d'une publication de quelques lignes d'un entrefilé dans un journal pour qu'il se saisisse. On se souvient évidemment de l'affaire Fillon, qui a fait que Fillon, évidemment, n'a plus eu aucune chance d'être élu dans la campagne présidentielle de 2017. aujourd'hui, à quelques jours de l'élection du président, du nouveau président des Républicains, c'est un entrefilé, là aussi, dans le canard, d'ailleurs, qui fait son travail, parce que c'est la vocation du canard enchaîné, sur les salaires successifs et cumulés de l'ex-épouse
d'Éric Ciotti,
qui est l'un des trois candidats à l'élection du... Bon, et puis on est à quelques jours, puisque c'est le 5 décembre qu'ils vont élire le président des Républicains. Et chaque fois, on y voit une intention politique. Parfaitement. Je voudrais signaler quelque chose d'assez important. C'est que le 27 avril dernier, lorsque le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, a consacré en quelque sorte président de la République pour une deuxième fois Emmanuel Macron, il y a toujours la présence des corps constitués. Et notamment les deux premiers magistrats de l'ordre judiciaire, c'est-à-dire Chantal Arens, première présidente de la Cour de cassation, et François Molins, procureur général de cette même Cour de cassation, étaient absents. Absents intentionnellement. C'est vous dire qu'entre l'exécutif et la justice, il y a une véritable guerre. D'autant que le ministre de la Justice, Dupond-Moretti, qui est en litige avec notamment le Conseil supérieur de la magistrature, a été maintenu. Il va y avoir un procès puisqu'il a été mis en examen devant la Cour de justice de la République.
On a quand même l'impression que dans Michel la France Pétain. Actuelle, le problème entre le politique, je ne dirais même pas l'exécutif, entre les politiques et les magistrats deviennent quand même insupportables. C'est-à-dire que moi, je veux bien... le gouvernement des juges, encore que je n'en veuille pas, je veux bien qu'on parle de gouvernement des juges, mais je trouve que cette espèce de vengeance permanente, cette vengeance dans laquelle s'installe pas seulement le parquet financier, mais d'une façon générale la plupart des magistrats, qui visent tous les politiques. Parce qu'on voit bien que ça tire à gauche, ça tire à droite, ça tire sur Ciotti, ça tire sur Dupond-Moretti. Il y a cette atmosphère de revanche permanente entre un pouvoir et un autre pouvoir, moi qui m'inquiète beaucoup. Je voudrais bien qu'on règle ça, qu'on sache comment, si les magistrats sont vraiment à ce point-là, s'ils détestent à ce point les hommes politiques, alors qu'ils acceptent d'être sanctionnés. Eux, ils sont sans sanction, ils sanctionnent tout le monde, mais eux, ils ne sont pas mis en cause, ils ne sont jamais mis en cause.
Ils n'ont jamais tort.
Alors qu'on change le système, moi je veux bien élire les juges, et comme en Amérique, et les désélire si je suis pas d'accord avec eux.
Voilà. Oui, aujourd'hui, les juges ne disent pas le droit et n'appliquent pas le droit. Ils sont les justiciers qui, au nom de la morale, érigent, veulent imposer leur propre morale, étant donné qu'ils sont dans le camp des purs et que tous les autres sont dans le camp des salauds, y compris les avocats, puisqu'ils défendent des salauds. Donc c'est devenu maintenant, les avocats ont une peur terrible des juges, ils pensent qu'ils sont écoutés tout le temps, quand ils voient leurs clients, ils mettent le téléphone dans le frigidaire pour qu'on n'entende pas. Donc c'est une espèce de suspicion généralisée, si vous voulez, c'est vrai. Donc il y a vraiment, mais je vois des avocats qui en sont malades, quoi. Et moi je dirais que le PNF est une arme de destruction massive de la classe politique. Voilà.
Je vous signale que dans l'affaire de l'Ocean Viking, la centaine de réfugiés sur le fameux bateau qui se sont retrouvés devant les juges de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ont été élargis, remis en liberté, alors qu'aucun n'avait droit à l'asile politique.
Alors, il faut dire aussi qu'arrivé un week-end du 11 novembre, ils ont 48 heures pour décider. Il y a 5 juges de la liberté, les assesseurs qui doivent faire le boulot, qui sont débordés. Eh bien, ils ont lâché. Je veux dire, c'était pas préparé, c'était impossible, c'était à 30 km d'où ils étaient. En 48 heures, ils l'ont décidé, comme ça.
Oui, enfin, ça les a beaucoup arrangés.
Ça correspondait aussi à...
Ça correspond, il n'y a pas assez de moyens. Il n'y a pas assez de juges. On ne peut pas juger aussi vite. Et puis, ils n'avaient pas à prendre ce bateau. Donc, il y a vraiment une querelle, une antinomie maintenant très, très profonde entre l'exécutif, le monde politique et le monde des magistrats.
Ça illustre parfaitement le fossé qui existe entre l'exécutif et la magistrature.
10h37, une nouvelle pause. Les grandes voix reviennent dans un instant. À tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1. Pierre de Villeneuve.
Avec Charles Villeneuve, Michel Cotta et Catherine Ney, Elisabeth Borne était à Berlin hier pour tenter d'apaiser les relations avec la chancellerie, relations mises à mal en particulier depuis le début de la crise énergétique. La Première ministre a beau dire « nous avançons », je dirais même que nous avançons bien, nous souhaitons plus que jamais faire du couple franco-allemand le moteur du consensus européen. Mais de toute façon, Olaf Scholz fait cavalier seul. Alors à quoi bon ce déplacement, Catherine Ney?
Parce qu'elle y est allée, parce que Emmanuel Macron lui a demandé d'y aller. Mais je vais vous dire que dans le couple franco-allemand, je vais vous dire, quand il y en a un qui a de l'argent et l'autre qui n'en a plus, ben, qui commande, c'est celui qui en a. Voilà. Qui se fait respecter. Voilà, c'est comme ça. Et je veux dire, l'Allemagne a toujours fait passer en avant ses intérêts pour son pays. Et là, le chancelier, il se rend même pas compte des dégâts que cause l'augmentation de l'énergie aux autres pays européens, puisqu'il refuse les prix plafonds qu'il leur demande, parce que lui, il a les moyens de payer. Voilà, c'est sa seule obsession.
Mais il ne se rend pas compte ou il s'en fiche?
Il ne s'en rend pas compte. Mais je vais vous dire, les Allemands, moi, je dirais qu'hier, il y a eu un SMS, enfin un tweet, d'ailleurs LCI a publié, de Mme Merkel d'hier, où elle dit cette chose incroyable. C'est qu'elle demande aux Allemands de ne pas livrer aux Ukrainiens les chars où il y a beaucoup de haute technologie pour ne pas envenimer la guerre. Parce qu'il faudrait retrouver très vite la bonne ambiance d'avant avec Moscou. Retrouver le temps des affaires. Elle dit ça, vous voyez? Donc elle est absolument en opposition avec le reste
avec
de l'Europe. Donc voilà, c'est ça. Mais c'est ça la position des Allemands.
Oui, c'est ça. La position des Allemands, bien sûr, les Allemands, d'abord, ils pensent à eux. Mais enfin, il y a quand même beaucoup de défauts allemands là-dedans, quand même. D'abord, la façon dont ils ont liquidé brutalement avec Merkel leur industrie nucléaire. On ne leur fait pas le reproche d'avoir des réacteurs, des entreprises en panne. Eux, ils ont carrément liquidé sous la pression des Verts, sans que Mme Merkel, d'ailleurs, n'éprouve de conviction formidable pour les Verts. Bon, ensuite, on sait que leur bilan électrocarbure, là, bilan carbure est épouvantable parce que évidemment
il y a
évidemment les énergies fossiles. Donc de ce point de vue-là, on comprend très bien qu'ils privilégient leur intérêt. Ils ont tout donné, ils ont tout misé, y compris la social-démocratie de M. Scholz sur le gaz russe. C'est vrai que ça leur pose davantage de problèmes à nous. Il ne faut quand même pas retourner le problème. C'est eux, en gros, qui ont quand même choisi la mauvaise stratégie. Nous, sacrément fait de bêtises sur le nucléaire, mais on n'avait pas la même stratégie.
Ils nous culpabilisaient sans arrêt parce qu'on avait encore du nucléaire.
Exactement. Voilà. Donc, il faut voir que moi, je veux bien que l'Allemagne soit la plus forte.
Que fait la police? Que fait l'Union européenne?
Plutôt en train de s'arranger. Ils trouveront un terrain commun.
Je pense qu'il faut toujours, quelles que soient les tensions, les difficultés, entretenir des relations avec un partenaire aussi essentiel que l'Allemagne, pour la France.
Bon.
Et Mme Elisabeth Borne a eu raison d'y aller, certainement, évidemment, envoyée par le chef de l'État, bien évidemment.
Elle fait de la diplomatie.
Mais se rappeler aussi que ce n'est pas la première fois qu'une crise réelle, structurelle, s'installe entre la France et l'Allemagne. Au moment de la réunification allemande, rappelez-vous, c'était encore beaucoup plus fort, beaucoup plus sensible. Là, aujourd'hui, il y a un fait qui s'impose à nous, à toute l'Union européenne. C'est que l'Allemagne est en train de reprendre du poids au centre de l'Europe. Regardez, quand il est parti en Tchéquie, je crois, le chancelier Scholz a prononcé un discours très intéressant et stratégiquement très important, en disant qu'il fallait prendre en compte maintenant au centre justement de l'Europe, de tous les pays des Balkans. Et il y a d'ailleurs une idée du chef de l'État français qui est très importante, c'est qu'il a parlé de la création d'une confédération, non pas d'entrer dans l'Union européenne, mais de confédérer ces pays.
Et il y a déjà eu une réunion de tous ces pays.
Absolument. Et je crois qu'il faut aller dans ce sens et trouver des projets ensemble. Il y a des projets qui sont arrivés au bout. Airbus a été une réussite formidable. Mm-hmm. Il y a l'hydrogène, il y a d'autres projets. Bon, on a des projets ensemble aussi. Bon, il y a le SCAF. Moi, je ne crois pas à l'affaire de l'avion de futur. Parce que nous avons déjà...
Nous avons un avionneur
de premier plan, d'une qualité exceptionnelle qui s'appelle Dassault. L'une des réussites de la coopération franco-allemande vient aussi dans... On vous parlait tout à l'heure, je crois que c'est Catherine ou Michel qui a parlé du Léopard, du char de nouvelle génération, de cinquième génération d'armement. Nous avons un projet commun, il faut le conduire jusqu'au bout. Nous avons quand même réussi des choses. Il faut se remettre justement dans cette perspective et essayer de rebecter un peu... J'utilise un mot argotique, mais de remonter un peu notre industrie, parce que c'est vrai que nous sommes flat, terminés. Nous n'avons quasiment plus...
Et dépendants.
Mais dans ce rapport de force, il ne faut pas oublier que 47% de l'euro, c'est les Français et les Allemands. Bon, c'est rien d'autre de toute l'Union européenne. Donc, il n'y a pas rien, on ne part pas à partir d'un banc de sable. Non. On a construit des choses, on a réussi des choses. Il faut se remettre dans cette perspective-là.
Alors, le problème, c'est quand même... on comprend assez mal quand même l'Allemagne. Parce que lorsqu'il y a un gros budget sur l'armement qui d'un seul coup apparaît, on se dit qu'effectivement, si on met ça en parallèle avec leur volonté de structurer autour d'eux l'Europe des Balkans... On se dit que d'un coup, la prédominance allemande joue, veut jouer, et que Scholz représente ça. C'est vrai qu'on peut se poser des questions sur l'Allemagne. Et moi, je crois que de ce point de vue-là, il y a eu un pas en avant fait par l'Allemagne, profitant de la faiblesse française. Mais je pense que le jeu de l'Europe fait qu'ils sont obligés, ils seront obligés de retourner en arrière et de trouver un compromis. Et de ce point de vue-là...
Notamment sur la méthode du prix du gaz. Il faut reprendre et remettre sur le métier toute cette négociation.
Que ne veut pas fixer l'Allemagne, parce que l'Allemagne est prête à accepter, à payer le gaz à n'importe quel prix, et beaucoup plus cher, puisqu'ils ont plus d'argent que la France. Mais moi, je me disais que dans les relations entre Olaf Scholz et la Première ministre, il y avait sans doute plus de sympathie, de compréhension, qui en a sans doute entre Scholz et Emmanuel Macron. Parce que les deux, Elisabeth Borne et Scholz...
Il y a un tempérament qui peut mieux s'ajuster.
Non, ils sont sociaux-démocrates, tous les deux, il ne faut pas oublier. Ils sont sociaux-démocrates, ils sont connus comme ça.
Ce ne sont pas des orateurs.
Ils ne sont pas. Elisabeth Borne, il y avait un très bon papier hier qui disait qu'Elisabeth Borne n'était pas du tout sensible au charme d'Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron joue beaucoup de son charme. Je crois que c'est le cas aussi d'Olaf Scholz, qui n'est pas du tout sensible au charme de Macron. Et au fond, cette visite d'Elisabeth Borne était sans doute assez intelligente de ce point de vue-là, pour essayer, tenter de rapprocher. Voilà. Alors maintenant, il y a effectivement quelques voies qui s'ouvrent. Voilà. On verra jusqu'où elle va.
Mais finalement, il faut qu'Elisabeth Borne dise à Emmanuel Macron, écoute, ton charme n'opère pas du tout, tu restes à l'Élysée et tu me laisses faire.
Ça dépend, le charme.
Le SCAF, les Allemands nous lâchent. Mais il faut voir comment c'est sorti, cette histoire du calme. C'était le 13 juillet 2017. Ce jour-là, il y a un premier conseil franco-allemand avec le président Macron qui vient d'arriver, il faut que ça se passe bien, entre Angela Merkel et lui, et il y a un communiqué final qui annonce que la France et l'Allemagne conviennent de développer un système de combat aérien européen sous la direction des deux pays. Mais seulement, on dit, regardez, comme Macron est formidable, il fait avancer les choses. Mais il fallait trouver une annonce forte, mais ni les industriels, ni les militaires de part et d'autre du Rhin ne sont dans la boucle, c'est une pure annonce politique. Et comme c'est une pure annonce politique, ça n'a pas avancé. Voilà.
C'est vrai.
Et maintenant, sans doute, c'est prévu maintenant, mais
c'est
pour trop tard.
C'est l'avion du futur, le chasseur bombardier du futur.
Exactement. 10h48, nous, on va rester au sol avec un sujet qui est d'autant plus grave que Kherson, où on annonçait comme la libération de cette ville, est à nouveau sous les bombes. À tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Pierre de Villeneuve.
Avec Michel Cotta-Catrinet et Charles Villeneuve, la Russie continue sa campagne en Ukraine. Trois choses, trois images marquantes. D'abord, la guerre d'usure. Ça, on l'avait dit dans plusieurs émissions ici depuis pas mal de temps. Deuxième image, ce bombardement sur Kherson qui était quand même l'image de la ville libérée. Et troisième image, Charles Villeneuve, Poutine avec les babouchkas, avec les mères russes, en train de prendre le thé. Par où on commence ?
Bah écoutez, par le front. Le front de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, qui est figé complètement autour du Dniepr. Les Russes, vous le savez, se sont installés sur la rive gauche. Et cet immense fleuve fait en quelque sorte une frontière fluviale. Et elle a dans son dos cette frontière, la Crimée. Et partant de là, les Russes, je pense, feront tout pour que l'armée ukrainienne ne franchisse pas ce fleuve. Ensuite, l'opération de saturation des centrales électriques est accompagnée par le bombardement d'hôpitaux, oui. C'est-à-dire du meurtre,
et oui.
De l'assassinat de civils, jusqu'à des enfants d'ailleurs. Personne n'est épargné. À un objectif politique, c'est de séparer la direction politique de l'armée du peuple et de que cette alliance très forte, qui à l'heure actuelle est sans faille, soit brisé. C'est ça l'objectif. Donc, ils vont continuer sur le plan de ces bombardements. C'est briser le moral de la population. C'est ça l'objectif, évidemment, avec l'hiver qui vient. Mais l'hiver est tout aussi difficile pour l'armée russe, qui a l'habitude de souffrir, c'est vrai, mais qui est composée de pas mal de conscrits. Or, la logistique d'habillement dans ces affaires est très importante, comme la logistique de la nourriture. Parce que quand il fait très froid, pour ceux d'entre nous qui ont été soumis au froid, une soupe chaude, les repas chauds sont essentiels, stratégiques, capital. Et ça, il n'est pas sûr que la logistique, on l'a vu, extrêmement défaillante de la Russie pendant ça fait 9 mois que ça dure.
Parce que le Donbass aussi est sans électricité.
Tout à fait.
Donc ça veut dire que les Russes ne peuvent pas plus chauffer leur
oui, mais parce que le talon d'Achille du système électrique, notamment de l'Ukraine, c'est cette série de centrales électriques qui sont situées sur une même ligne d'action. Ça facilite justement les bombardements et surtout la pluie de missiles. Il y a 67 missiles de croisière qui ont été tirés et 5 drones kamikazes qui ont fait beaucoup de morts, mais moins qu'on le prétend. Moins qu'on ne le prétend. Ça veut dire que le système d'alerte ukrainien est très, 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 très bien fait.
Je voudrais parler de Kherson quand même. Parce qu'au fond, pendant des semaines, les Ukrainiens se sont dit « Ah, c'est peut-être un piège si les Russes abandonnent Kherson. » Et puis, quand il a été libéré, on s'est dit « C'est formidable. » Mais en réalité, c'est bien ça qui s'est passé. Les Russes se sont retirés, mais maintenant canardent à mort Kherson et sa population, qui d'ailleurs revient. C'est-à-dire que je me demande quand même si nous n'avons pas trop tendance les uns et les autres à trouver que notre sympathie pour l'Ukraine change un tout petit peu la réalité des choses et que finalement la Russie est loin d'avoir perdu. Elle est loin d'avoir gagné, mais c'est vrai que le triomphalisme d'il y a 3 semaines est en train quand même de s'éroder et que quand on dit qu'il faut une porte de sortie, il faudra quand même une porte de sortie, même si les Ukrainiens ne veulent pas.
Il ne faut pas croire que cette porte de sortie, les Russes ne s'en occupent pas.
Ah, ils s'en occupent tout à fait, ils ont intérêt à s'en occuper.
Ça bouge encore. On avait évoqué samedi dernier la rencontre de Narychkine, le patron des services secrets russes, qui a la confiance totale de Poutine, et de William Burns, le patron de la CIA à Istanbul. Il faut savoir qu'il y a eu une réunion il y a moins de 2 semaines à Abu Dhabi, sous l'égide du cheikh Bin Zayed, où il y a eu quelques diplomates et quelques hommes de talent sur le plan diplomatique qui se sont retrouvés en présence de Lavrov, le ministre des Affaires étrangères.
Oui, mais que la Russie y pense, on voit très bien.
Et donc, il y a des éléments, ça continue de bouger, il ne faut pas croire que le dialogue, d'autant que le chef d'état-major de l'armée américaine a fait remarquer que la Crimée ne faisait pas partie des pays d'une possible reconquête ukrainienne.
Oui, je sens qu'on va en reparler malheureusement
beaucoup
de l'Ukraine.
Je pense que les Ukrainiens n'ont pas entendu cette mise en cause.
Moi je crois aussi que cette façon, on voit bien que Poutine, il veut anéantir ce pays, que le froid va l'y aider, qu'il y a des tas de gens qui vont mourir, parce que toutes ces personnes âgées, comme ça, c'est tenable, c'est pas tenable pour pendant longtemps. Donc, et moi, je crois que, je ne sais pas s'il y aura une solution bientôt, mais je crois que cette stratégie condamne, est une fuite en avant qui condamne une paix durable pour plusieurs décennies. Il y aura peut-être un cessez-le-feu, mais une paix durable, parce que les gens, c'est une telle haine de ces gens contre les Russes que ça va devenir quelque chose de très, très, très...
Merci. Merci les grandes voix. On espère retrouver Gérard la semaine prochaine.
On y
compte bien. Et le foot, bah voilà, 12 millions de téléspectateurs devant le match. C'est fédérateur.
C'est le pouvoir fédérateur du foot autour de l'équipe nationale.
Et voilà, 17h, France-Danemark. On n'oublie pas, bien sûr. Très bonne journée. Bonjour Laurent Mariotte.
Bonjour Pierre et bonjour les grandes voix.
Bonjour.
Eh bien, aujourd'hui, figurez-vous que nous aussi, on se met à table avec deux grandes voix de la gastronomie. Michel Oliver et Jean-Luc Petit-Renaud nous rejoignent dans un instant. Et Jonathan Lambert vient partager le plat du jour avec nous.
À tout de suite. Vous savez quoi, on arrive.